Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'école de chien guide de Caen Normandie, association à vue de truffe. Le but de ce podcast, c'est de présenter aux auditrices et auditeurs la vie, les actions de plusieurs personnes aux expériences et aux parcours de vie différents, mais qui ont en commun d'être confrontées chaque jour à la question du handicap visuel. Plus largement, au fil des épisodes, en compagnie de nos invités, nous pourrons aborder notamment les sujets de l'autonomie, de l'accessibilité, de l'insertion professionnelle, de la vie en société, etc. Et pour ce premier épisode, quoi de mieux pour notre association que de donner la parole à nos bénéficiaires? Nous avons donc le plaisir d'accueillir Isabelle, malvoyante et bénéficiaire de Chien Guide. Bonjour Isabelle.
Bonjour Dakota.
Alors merci d'être là avec nous. Donc Isabelle, tu as 55 ans, tu es malvoyante.
Oui.
Et tu es bénéficiaire de Chien Guide depuis 2023.
Oui.
D'un Golden Retriever qui s'appelle Sully.
Oui.
Voilà, qui t'a été remis par l'association à vue de truffe. Est-ce que, en premier lieu, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant l'attribution de Sully et de ton expérience?
Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 55 ans. Je suis malvoyante de naissance avec une particularité, c'est que ma malvoyance s'est déclenchée à l'adolescence, surtout pour la vision de nuit, où j'ai aucune vision de nuit possible. Au fil des années, ma malvoyance s'est manifestée un peu plus par le fait que même de jour, j'ai des difficultés à voir maintenant. J'ai été diagnostiquée avec une rétinite pigmentaire. C'est une défaillance de la rétine. Là, actuellement, je ne peux plus lire sans matériel de basse vision. Pardon. Mon quotidien est rythmé en fonction de ma vue, qui est plus ou moins bonne selon le temps, selon la luminosité qui est autour de moi. J'ai une vie de famille, je me suis mariée, j'ai deux enfants. Pour l'instant, mes enfants n'ont pas ce gène qui peut leur donner la rétinite pigmentaire. Mon parcours, j'ai appris au fur et à mesure à me débrouiller toute seule avec cette pathologie. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus trop possible de faire toute seule, il me faut des outils pour avancer. Je me suis rapprochée de l'association, que j'ai rencontrée grâce à un stand qui était tenu dans un magasin proche de chez moi, où là j'ai fait la rencontre de gens très sympathiques qui m'ont parlé de l'association à vue de truffe et qui m'ont confortée sur le fait que ma malvoyance n'était pas un frein pour bénéficier d'un chien guide. Par contre, on m'a bien signifié qu'il fallait que j'apprenne à bien me servir d'une canne, chose que je ne savais pas faire à l'époque, et éventuellement de suivre une formation à l'Institut Sainte-Marie à Paris. Donc, il fallait que je me déplace à Paris pendant minimum 3 mois pour suivre des cours avec des ergothérapeutes dans tous les domaines et apprendre les petites ficelles pour m'apprendre à bien me débrouiller dans ma malvoyance. Voilà, ça c'était le premier parcours. Et ensuite, à la sortie de ces 3 mois à Paris, avec la base que j'ai eue en ergothérapie de locomotion, que j'avais déjà, j'ai oublié de le dire, mais commencé dans l'association à vue de truffe, Clément m'avait donné quelques cours pour avancer un petit peu plus facilement avec la canne.
Donc Clément, notre instructeur en locomotion, Clément Martin.
Voilà, il m'avait donné les bonnes façons de me déplacer avec une canne, les bons balayages, comment se déplacer, comment interpréter le relief par le biais de la canne. Donc ça en main, j'ai pu aller à Paris, continuer cette formation. Et à la sortie de ces 3 mois à Paris, j'ai recontacté à vue de truffe pour commencer les démarches pour l'acquisition d'un chien guide. Voilà.
Et après, alors, une fois qu'à vue de truffe prend en charge ta demande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu avais déjà rencontré Clément Martin, du coup, l'instructeur en locomotion.
Oui, c'est ça.
Avec qui tu as fait des séances pour l'apprentissage de la canne, etc.
Oui. Donc là, ça m'a ouvert le champ des possibles. Et là, je me suis dit, mon handicap va être plus facile à vivre, du coup. Mes déplacements, ça m'a donné de l'espoir dans le devenir, ouais, dans mon devenir. Voilà, il y a des choses qui s'ouvraient à moi, en fait. Alors qu'avant, j'étais cantonnée à tenir le bras de mon mari en permanence, d'être un peu la plante verte qu'on ne bouge pas dans une pièce. Et puis que là, depuis que j'ai Sully, je sors toute seule, je fais les magasins, j'affronte le monde sans difficulté ou presque, on va dire. Mais c'est vachement plus simple. J'ai pas la canne qui me revient dans le bras dès qu'à chaque fois je touche un obstacle, un trou, une imperfection sur la route, des choses comme ça. Et puis il y a un contact humain, il y a du relationnel qui se crée autour du chien, parce que je rencontre plein de gens qui s'intéressent aux chiens, parce qu'il faut dire que Sully est magnifique aussi.
Oui, c'est sûr.
C'est un très beau chien qui est très intelligent. Et donc, ouais, ça m'ouvre à plein de choses maintenant. J'ai envie d'aller de l'avant et il n'y a plus de frein en fait.
Et quand on parlait, tu te parlais tout à l'heure de ton mari, donc tu as aussi deux enfants. Comment ça se passe au quotidien? Parce que dans la maison, le chien guide, du coup, est un chien de compagnie classique. Comment ça se passe à l'intérieur de la maison pour l'organisation, etc. Quand on est malvoyant et qu'on est entouré de personnes voyantes, est-ce qu'il y a des conseils qu'on leur donne?
Alors, moi, les choses, quand mes enfants étaient petits, ça s'est fait naturellement. En fait, ils ont très vite compris que maman avait une difficulté, qu'on ne laissait pas traîner des jouets. S'il y avait des choses qui traînaient par terre, je leur demandais de les ramasser. Donc en fait, ils ont toujours baigné dans le domaine du handicap. Pour eux, c'est instinctif, c'est intuitif en fait. Moi, la maison, je l'ai, comment on pourrait dire, ça fait rigoler souvent quand je dis ça. En fait, je ne la connais pas avec mes yeux, ma maison, je la connais sur le bout des doigts, sur le bout de mes orteils. Moi, s'il y a une panne d'électricité, je ne suis pas du tout perturbée dans ma maison. Je connais chaque craquement de marche, chaque porte, chaque pièce. La chose où il ne faudrait pas qu'on m'embête là-dessus, c'est que, où ça pourrait être plutôt difficile pour moi, c'est si on me déplace les meubles. Ne serait-ce que d'un centimètre, un meuble qui est déplacé, c'est une blessure pour moi. Parce que je me suis programmée avec mes meubles d'une certaine façon, dans leur position, et si on me les déplace, c'est l'accident, quoi. Une porte mal fermée ou mal ouverte, c'est problématique pour moi. Tout est organisé en fonction de mon handicap, mais je ne m'en rends pas trop compte, c'est les autres qui s'en rendent compte. Parce que moi, je suis tellement habituée. Mais sinon, le handicap à la maison, ça s'est fait très naturellement. Et comme c'est un handicap progressif, où je perds la vue régulièrement, malheureusement, on s'adapte régulièrement. Donc, mon entourage s'aperçoit plus vite que moi que j'ai des défaillances. Mais en fait, tout se fait naturellement. Pour en revenir à ta question avec Sully, on a adapté quelques petites choses, c'est-à-dire qu'on a déplacé un petit peu de meubles à la maison, parce que c'est petit et Sully est grand. Mais lui, il a trouvé très vite ses marques. Il sait que s'il ne se bouge pas, je lui marche dessus, malheureusement. Donc, il a vite compris que dès que j'avance, il faut qu'il se pousse. Donc, ça, ce n'est pas un souci maintenant pour lui. Ça a été l'histoire de quelques semaines. Il sait très bien que quand je fais la cuisine, je fais tomber des petites choses. Donc, il faut être à ce poste très important de la cuisine parce qu'il ramasse un petit peu ce qui tombe. Et non, ça se fait très naturellement, en fait. À la maison, oui, ça me semble simple, moi. Que ce soit avec ou sans lui, on a réussi à s'adapter très bien tous ensemble. Ouais. Sully a très vite compris le rôle de chacun. Moi, c'est le travail avec lui. Bon, il y a les papouilles, il y a tout ça. Mon mari, c'est beaucoup le jeu, les balades en laisse. Et avec les enfants, c'est pareil, c'est du plaisir aussi. Bon, mes enfants sont grands, mais ça reste du plaisir, ça met de la vie dans la maison.
Et puis c'est bien quand c'est devenu un chien de famille, en fait, finalement.
Ah oui, carrément.
C'est
carrément
ton chien guide, mais en même temps, il a une relation fusionnelle avec tout le monde.
C'est ça, c'est le chien de tout le monde, mais avec le petit plus pour moi, c'est qu'il travaille. Voilà.
D'accord.
Quand il a le harnais, il travaille, il le sait.
Et quand on revient au niveau des essais de chiens que tu as pu faire à l'association à vue de truffe, pourquoi le choix s'est porté sur Sully, du coup, justement?
Alors, quand je suis revenue de Sainte-Marie au mois de mars-avril, je suis revenue à l'association. Et là, on a commencé à entamer les essais avec différents chiens, différentes races. Et en fait, mon choix s'est porté sur Sully. Alors, au démarrage, Sully n'était pas fait pour moi, parce qu'il était déjà placé. Mais on m'a fait faire quand même un essai par rapport à son gabarit, à son allure, qui me convenait tout à fait. Puis, il y a eu un petit coup de cœur, je ne le cache pas. Et ces autres... les autres petits chiens, les autres chiens qui étaient là, en fait, l'allure ne me convenait pas, c'était trop rapide ou trop lent. Le gabarit ne m'allait pas non plus. La race, parce qu'il y a une race que je ne voulais pas, le Labrador, par exemple. Donc j'ai fait les essais avec ces différents chiens, 5-6 chiens, et il n'y a vraiment que Sully qui est sorti du lot. Alors j'ai refait un deuxième essai avec Sully, et là on m'a annoncé la bonne nouvelle, c'est que si j'étais OK avec Sully, son propriétaire chez qui il devait aller, en fait s'était désisté, pour X raisons, et on m'a dit si t'es OK, écoute, Sully peut être pour toi. Donc, je me rappelle, c'était un après-midi et Sully était à côté de nous Et quand j'ai regardé Sully, je dis, Sully, est-ce que tu es OK pour venir avec nous? Direct, Sully s'est retourné vers moi et s'est assis à côté de moi. Donc, je me suis dit, c'est validé, quoi, en fait. Et l'aventure a démarré comme ça. Voilà. Il y a eu un coup de cœur, il y a eu, je ne sais pas, c'est un grand sensible, il est comme moi, il est dans les émotions et ça a matché, quoi. Et c'est vrai que, après, c'est un apprentissage parce que c'est bien d'essayer à l'association, mais après, dans la vie quotidienne, il y a encore des choses à apprendre.
Il faut que le chien puisse transposer, en fait, ce qu'il a appris avec les éducateurs, mais dans ton environnement familial, dans ta ville.
C'est ça.
Et puis qu'après, voilà, qu'il y ait quand même une relation de confiance et un binôme qui se forme. Alors, ça a pris un petit peu de temps, parce qu'après, forcément, pour un petit peu s'apprivoiser chacun, et puis forcément, les chiens, c'est un peu comme les enfants, ils vont tester quand ils sont dans un nouvel environnement. Donc, voilà, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi aussi.
Ah oui, oui, oui. Oui, moi, je m'étais dit, moi j'ai les clés, parce que avant la remise de chien définitive, on reste quelques jours à l'association pour être immergé complètement avec le chien 24 heures sur 24. Donc on est accueilli dans l'association, on y mange, on y dort, on apprend les techniques de base et après on retranspose ça chez nous. Sauf que Sully, en fait, c'était sa première expérience, un peu comme moi, beaucoup comme moi d'ailleurs, c'était sa première expérience de chien guide. Il quittait sa famille d'accueil où il était un chien de compagnie en fait, et là il a fallu qu'il s'adapte à ses chiens de compagnie, mais pas que, il faut travailler, et donc ça a été un apprentissage parce que comme tu dis, il a testé et je me suis fait un petit peu duper donc il faut reprendre et reprendre les bases, rien céder, rien lâcher pour que lui assimile son travail. Et c'est un chien qui apprend très très vite, qui est un petit peu filou. C'est son petit côté un petit peu taquin de temps en temps, mais ce qui permet toujours d'être à l'affût de ses réactions, de travailler en permanence. Voilà.
Et donc, tu as eu un accompagnement aussi par les éducateurs après la remise du chien guide. Oui.
Alors, les premiers mois, j'ai eu un éducateur canin qui est venu de l'association et qui m'a suivi tous les mois. Et dès que j'avais un problème, je les appelais pour qu'on essaye de régler. Alors, ce n'était pas des problèmes graves en soi, mais c'est des petites choses pour se réadapter, comprendre pourquoi, par exemple, celui-là me tirait énormément, pourquoi là, d'un seul coup, il se stoppe, alors je ne comprends pas trop. Et il m'a fallu, je dirais, une bonne année pour maintenant bien comprendre le pourquoi du comment de ses déplacements à Sully, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'il va voir beaucoup plus vite que moi. Donc, je m'adapte à lui. Lui, il voit. Donc, il réagit vite. Moi, je ne vois presque plus. Donc, il me faut plus de temps pour comprendre ce qu'il me montre. Mais il me fait des choses formidables. Il y a des fois des obstacles que j'imagine même pas devant moi. Et lui, il les a déjà captés bien longtemps avant moi. Et donc, il a une façon de se déplacer, de se positionner avec moi, qui m'avertit qu'il y a un danger. Il y a quelque chose à prévoir là, à ce moment-là.
Et donc là, vous avez pris des automatismes maintenant.
Oui.
Donc, vous arrivez à communiquer, en fait, même des fois sans la parole. En fait,
Oui. Bon, Sully, c'est un chien qui est sensible. Il aime bien tout le temps être félicité, récompensé. Donc, on est toujours dans cette complicité-là, pardon. Mais je m'aperçois qu'il est très, très doué dans ce qu'il fait. C'est moi qui ne suis pas toujours au fait, mais il est très, très bon dans sa partie. Non, clairement, il peut être capable de je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme dernière anecdote? Il y en a tellement, mais une fois, on est passé sur un chemin, il y avait un énorme trou devant. Lui, s'est stoppé. Et d'un seul coup, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est en tournant la tête, je me suis dit, ah oui, toi, tu avais déjà repéré le trou, en fait. Donc, il était déjà en train de me trouver une deuxième solution. Donc, j'ai juste eu à lui dire, cherche, vas-y, je te laisse faire. Cherche la solution. Il m'a décalé du trou pour passer à un autre endroit. Là, c'était le cas de figure qui s'est présenté. Et là, je me suis dit, ouais, il est super fort quand même. Ouais, il prend des très, très bonnes initiatives. Ouais. Oui, clairement.
Et quand on parle de relation, justement, de complicité qui s'établit, en parlant de relation, c'est... On pense beaucoup à la famille d'accompagnement, en fait, qu'il a eu de ces 3 mois quand il est arrivé à l'association jusqu'à sa remise, quand il avait 2 ans. Est-ce que, justement, toi, tu as rencontré, est-ce que tu as gardé le contact même avec cette famille d'accompagnement qui avait Sully?
Alors, moi, je garde toujours contact avec Elisabeth et Robert, leur famille de cœur, moi, j'appelle ça. Et on est toujours en contact, on s'envoie toujours des photos. Et j'ai eu la chance d'avoir eu aussi le coup de cœur affectif avec ces gens-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre trio, parce que Enfin, c'est presque, c'est pas explicable. En fait, moi, j'ai vu tout le travail, tout l'amour qu'ils ont donné à Sully. Et Sully, s'il est bien dans ses patounes maintenant, c'est grâce à eux, quoi. Ils l'ont emmené partout, il a fait plein d'activités avec eux, il est très éveillé. Et moi, j'adore quand on se rencontre. Par exemple, s'il y a une manifestation au sein de l'association, j'hésite pas à les appeler, leur dire, bah, moi, je serai avec Sully, si tu veux venir... Et tout de suite, c'est un oui, on se rend compte et Sully est super content de les voir. Il y a toujours ce moment très doux, j'aime bien leur laisser le temps de se retrouver. Mais Sully, là où je trouve très fort, c'est qu'il est capable de dire, bon voilà, ça c'était ma première famille, mais j'ai ma maîtresse maintenant. Donc il revient sans difficulté vers moi et il a très bien compris le mécanisme en fait. Il y a eu cette famille-là avant et sa famille maintenant. Et ça, il navigue entre tout le monde et c'est super.
Il arrive à faire la distinction. Et
ah
puis,
ouais, carrément.
À leur faire la fête quand même.
Ah, tout, ah oui,
quand il
ah oui,
les retrouve.
Oui,
et puis
oui
voilà.
Il y a une très grosse fête, mais il sait qu'à un moment donné, hop, si je le rappelle, il revient vers moi. Donc c'est chouette parce que je me dis, le travail a été très bien fait, quoi. On s'est laissé le temps au début, quand j'ai récupéré Sully, de ne pas se voir tout de suite, justement pour conforter cette complicité avec moi. Et quand les choses se sont bien mises en place dans sa tête, on a revu à nouveau sa famille de cœur et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais, ouais. Même quand je dois repartir, on s'accompagne les uns les autres. Je lui dis, bon, bah, allez, hop, Sully, on va à la voiture. Il regarde ses anciens maîtres et hop, il revient avec moi. Il n'y a pas de chouinement, il n'y a pas d'hésitation, il ne tire pas pour aller les voir. Non, non, du tout. Il continue avec nous. Donc, je pense que dans sa tête, c'est bien clair. Il est avec nous et ça se passe super bien, quoi.
Ouais. Ouais. Et quand tu parlais tout à l'heure des manifestations justement sur lesquelles vous vous retrouvez avec l'ancienne famille d'accompagnement, donc on peut le préciser ici, c'est que les chiens guides ont le libre accès au lieu public sans facturation supplémentaire ou autre. Mais est-ce que avec la CAN, entre la CAN et le chien guide, est-ce que tu as vu une différence au niveau de la prise en charge pour l'accès aux lieux publics? Et est-ce que tu as rencontré aussi des difficultés en fait, pour accéder à des magasins, à des centres commerciaux, à des choses comme ça?
Alors, oui et non pour les deux cas. Moi, j'ai trouvé du changement par rapport au relationnel que les gens peuvent avoir vis-à-vis de moi avec le handicap. Les gens viennent plus facilement vers moi, me poser des questions. Les gens ne comprennent pas toujours que c'est un chien guide, malheureusement. Donc, ils le sollicitent, ils le caressent. Alors que quand il a l'étrier, c'est le harnais plus la poignée qu'il a sur le dos. Normalement, il ne devrait pas être caressé, pas sollicité. Ça, j'ai beaucoup de gens qui profitent, pensant que je ne vois pas du tout. Donc, du coin d'un rayon, qui lui gratouille le nez, qu'il le caresse. Donc, il faut faire de la pédagogie dans ces moments-là. Celui-là, il a un manchon sur son harnais, qui indique bien qu'il ne faut pas le distraire. Bon, des fois, je me demande qui ne voit pas clair, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Alors, dans ce cas-là, oui, voilà, il faut beaucoup de pédagogie, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de relationnel, par contre. Ouais. Les gens s'intéressent. J'ai eu le cas encore hier à une terrasse de café. Je repartais de la terrasse de café, et là, une dame avec un énorme chien me dit à son chien, non, tu le laisses, il est au travail.
Ouais,
et là,
bien.
Je me suis dit, ouais, depuis un an que j'ai suivi, j'ai remarqué que les gens étaient plus au fait de tout ça. Ont compris que si le chien, il a un étrier sur le dos, c'est pas pour rien. Bon, moi, je suis malvoyante, donc je suis pas avec des lunettes noires, j'ai pas, voilà. Donc, les gens ne comprennent pas que je suis juste malvoyante.
Oui, parce que justement, il peut y avoir des gens, des fois,
oui.
Dans le grand public, des personnes qui pensent qu'une personne qui a un chien guide, c'est forcément une personne
voilà.
Non-voyante,
c'est
qui
ça.
A des lunettes de soleil,
ouais.
Et puis qui forcément va être un petit peu perdue si elle est toute seule. Alors qu'en
ouais.
Fait, il y a un apprentissage qui est fait
c'est
avec
ça.
Le chien, et puis que finalement, vous arrivez à être autonome sans problème. Quoi.
Bah, en fait, on est tellement fuite dans nos déplacements, les gens me disent souvent « Ah, vous êtes en train de l'éduquer ». Je dis non,
ouais.
C'est mon propre chien. Parce que justement, je suis malvoyante, je ne suis pas aveugle. Je pense que si j'étais aveugle, la question ne se poserait pas. Parce que moi, j'ai un rythme assez soutenu avec Sully, il a une bonne cadence. Donc, je ne dirais pas qu'on court, mais presque quand on se déplace sur des lieux que je connais. Parce que des lieux que je ne connais pas, on va être plus ralenti. Mais ça, c'est un peu la double peine de la malvoyance. Avec chien ou sans chien, les gens, ça par contre, ils ne font pas trop la distinction. Dans l'ensemble, je n'ai pas de mauvais retours. J'ai eu des fois des réflexions, ah, le pauvre, vous le faites travailler. Donc j'explique que non, il est content de le faire, sinon il ne serait pas là, il ne prendrait pas son étrier tout seul. Donc voilà, c'est de la pédagogie. Hein, mais je trouve que les gens de plus en plus comprennent que le chien guide, il est là pour nous aider, qu'on soit non-voyant ou malvoyant. J'en entends de plus en plus parler dans les magasins quand on me croise. Ah ben là, tu vois, c'est une dame, elle voit pas clair, donc elle a son chien, il faut le laisser. Donc ça, depuis un an, je l'entends de plus en plus. Ensuite, les refus dans les magasins, j'en ai eu au tout début. Ouais, ça m'est arrivé. Donc, faut pareil, de la pédagogie, d'expliquer que mon chien, c'est ma vue, c'est mes yeux. Donc, il doit m'accompagner partout. Donc, et j'explique que c'est un chien guide et on me laisse rentrer. Voilà.
Et puis finalement, c'est un manque de connaissances.
Carrément.
Un manque de formation aussi, de la part des groupes, de magasins, etc., des lieux publics, qui ne vont pas former leur personnel sur la distinction qu'on peut faire par rapport à un chien domestique, un chien classique de compagnie. Là, si c'est un chien guide, il a forcément le libre accès au lieu public.
Mais des fois, moi, je suis étonnée quand je vois... Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans les magasins avec un chien. Donc, c'est pour moi, automatique, c'est un chien d'assistance. Mais les gens ne sont pas dans cette démarche-là. C'est « Oh, il est mignon, il est joli, on le papouille, on le caresse. » Et là, je suis obligée de dire « Non, non, le caressez pas. » Et là, « Ah, oh, mais oui, mais quand même, il est gentil. » Je dis « Oui, ça n'empêche pas. » Mais là, après, moi, il faut que je retravaille deux fois plus derrière parce que sinon, il va sur tout le monde.
Ouais.
Et c'est embêtant pour moi derrière parce que ça peut être cause d'accident ou de problématiques liées à mon handicap, quoi.
Tu n'as jamais eu de personnes qui venaient t'accoster ou t'aborder quand tu étais à la canne ?
Ah non, du tout. Non, non, je pense que les gens en profitaient même pour me passer devant dans les queues de magasins.
D'accord.
Moi, je pense que le regard était carrément différent. Et puis, c'était... Ma cadence, mon allure corporelle n'était pas la même. J'étais un peu plus voûtée parce que peur de me prendre un poteau, clairement. Que là, avec Sully, lui, direct, le poteau, je ne le vois même pas venir. De toute façon, il me décale naturellement.
Ouais.
En fait, on fait presque une fusion, son corps contre ma jambe gauche, parce qu'il est contre ma jambe gauche. Et en fait, ça se fait très, très naturellement. C'est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. C'est un autre déplacement, clairement.
Ouais. Ah ouais. Mais en parlant de la canne, justement, en fait, tu nous disais au tout début d'épisode que tu étais allé à l'hôpital Sainte-Marie, à Paris, pour suivre une formation, une rééducation fonctionnelle.
Oui.
Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour expliquer aux gens comment se passe justement ce type de rééducation quand on est malvoyant ?
Alors moi, j'ai été hébergée pendant 3 mois là-bas. Donc, on avait un service, c'était le deuxième étage, où on avait la vie quotidienne, les repas, le coucher. Et au 5e étage, on avait toutes les ergothérapeutes pour la locomotion, pour l'expression corporelle, la vie quotidienne, plein d'ergothérapeutes qui étaient là pour nous. Donc, on avait des cours au long de la journée, ça pouvait être 2-3 cours par jour. La locomotion, c'était sur 1 heure dans les rues de Paris. Donc, on apprenait à se déplacer, comment se déplacer, comment retrouver des repères, pourquoi on se met sur tel trottoir et pas un autre quand on doit tourner à droite ou à gauche, bien comprendre les traversées par rapport à des feux rouges, parce qu'il y a des techniques, apprendre beaucoup à utiliser nos autres sens aussi.
Ouais.
Par exemple, à un carrefour, si on ne comprend pas bien le carrefour, on utilise ses oreilles pour voir d'où vient la voiture. On regarde si on peut encore voir, moi, ce qui est encore un peu mon cas, si c'est des sens uniques ou pas, des doubles voies ou pas. Les traversées ne seront pas pareilles, en fait. La vie quotidienne, c'est apprendre à utiliser un distributeur de billets. Il y a des techniques aussi. Ça peut être aussi comment retrouver tel ou tel produit dans un placard. Après, c'est aussi... connaître les matériels de basse vision. Moi, par exemple, j'utilise une loupe électronique.
D'accord.
Ça me permet encore de lire, parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux plus lire sinon. Plein de petites choses de la vie quotidienne que j'avais déjà mis en place sans connaître ces techniques-là. Et en fait, j'ai perfectionné. Parce que mes besoins sont différents maintenant, vu que ma vue baisse encore. Donc il me faut d'autres petites astuces que je mets au quotidien, par exemple des petites butées sur de l'électroménager pour savoir où se trouve le bouton marche ou arrêt d'un appareil, des clics aussi, enfin des clics ça peut-être pas parler à grand monde, mais sur certains machines à laver ou four, il y a des petits clics. Donc savoir que 3 clics à gauche, ça démarre la machine, ou 3 clics à gauche ou à droite, c'est le programme LEN, des choses comme ça. Et sinon, repérer avec des petites bandes adhésives, soit velours, soit à scratch, pour savoir où poser son doigt pour allumer un appareil ou régler un appareil. Voilà, ça, tout ça, je ne connaissais pas, par exemple.
Mais justement, c'est bien, parce que c'est des choses qui vont permettre derrière de faciliter la vie et qui permettent de rester en autonomie, parce que tu fais beaucoup de choses chez toi.
Oui. Bah, ça m'a surtout appris à prendre conscience que mon état de santé général était important à conserver, qu'il fallait que je m'octroie des moments de pause dans la journée, parce qu'on travaille beaucoup avec notre cerveau, puisque nos yeux fonctionnent très mal, et ça fatigue énormément. Et je sais que maintenant, si je ne fais pas une petite pause dans l'après-midi, j'ai du mal à tenir la journée, je vais être plus fatiguée, plus susceptible, ou voilà, je vais pas être bien, quoi, en fin de compte.
Oui,
donc ça, j'accepte.
Moralement, c'est
voilà,
plus
lourd. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, ça me permet, si mon moral est bon, le reste va suivre. Sinon, bah, si je ne me suis pas reposée, si je n'ai pas pris soin de moi, eh ben, je risque de me cogner, et les blessures sont souvent graves, si on ne fait pas gaffe. Ça peut être des choses que nous, on a mis en place pourtant. Et là, à ce moment-là, on est fatigué, on n'a pas la tête à ça et on va se cogner. Moi, la dernière fois où je me suis fait très mal, je me suis pris un tuteur dans l'œil.
Ah oui.
C'est pas ouf, alors que c'est moi qui avais mis justement ce tuteur-là, cette place-là. Et comme j'étais fatiguée le jour-là, j'avais la tête ailleurs. Bon, bah voilà, l'accident bête est arrivé. Donc, on n'est pas à l'abri des petits accidents domestiques non plus. Mais sauf que nous, ils prennent tout de suite une plus grosse importance.
Oui.
Parce que derrière, on a besoin d'aide, encore plus. Donc, il faut éviter un maximum ces petits accidents du quotidien par toutes ces petites méthodes que j'ai apprises à Sainte-Marie, en fait.
Et au niveau administratif, au niveau des demandes pour les aides, pour les personnes handicapées, est-ce que toi, tu penses qu'il y a besoin d'une amélioration au niveau des services publics ou autres ?
Alors, ouais. Alors, moi, je dirais qu'il y a besoin de former les gens encore et encore. Il faut former, il faut informer, parce que même dans les administrations, moi je voyais des gens, j'ai eu une dame il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai ma carte vitale qui n'était pas à jour apparemment, et puis elle me disait, bah, madame c'est derrière, faut mettre votre carte à... Je lui dis, oui mais là je ne peux pas, je suis malvoyante. Mais la personne pour autant n'est pas venue à mon aide.
D'accord.
C'est quelqu'un qui m'accompagnait qui me l'a fait. Bon, bah ça fait partie des petites choses. On passe à côté parce que bon, on va pas se mettre en colère après tout le monde.
Ouais.
Mais là, j'avais ma canne et pourtant la personne a pas capté du tout. Ou alors, tenez, je vous mets ça là. Oui, mais là pour moi c'est l'univers. Oui. Donc,
c'est tout un langage à
réapprendre.
Ah,
mais carrément. Mais même moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un langage particulier.
Ouais.
Quand j'étais à Sainte-Marie, j'étais avec des aveugles. Et là, je me suis dit, oui, c'est important de décortiquer. C'est à ta droite, c'est devant toi, c'est à hauteur de ta tête ou... C'est des petites choses, ça paraît... On a l'impression de retourner en maternelle, mais en fait, c'est hyper important et c'est beaucoup plus rapide pour nous en compréhension.
Ouais.
Ça paraît rien, mais c'est énorme. C'est énorme, ouais. Mais c'est encore à nous d'être dans la communication pour faire transmettre ça.
Ouais.
Parce que les gens ne sont pas trop formés à ça encore. Ça y vient. C'est pour ça que c'est important d'en parler autour de nous. De faire les stands d'information, des choses comme ça. Parce qu'on rencontre beaucoup de publics qui ne sont pas au courant de tout, qui s'étonnent même encore de tout ce qu'on est capable de faire. Même moi, au tout début, que j'ai commencé ce parcours-là, je ne pensais pas que j'avais des possibilités à ce point-là. Moi, je m'étais dit, mais non, mais c'est foutu, quoi. Je suis malvoyante, je suis juste ça, et bon, bah voilà, je peux rien faire. Et en fait, non, moi, je me suis redécouverte. Ouais.
Et là, justement, dans ce mois de février 2025, on va fêter les 20 ans, en fait, de la loi sur l'accessibilité, l'égalité des chances des personnes en situation de handicap. Est-ce que toi, justement, en tant que malvoyante, tu as vu une évolution quand même au niveau de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ?
Moi, je pense qu'on n'est pas tous égaux au niveau du handicap. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais pas forcément pour les malvoyants ou aveugles.
Et même pour d'autres handicaps, d'ailleurs. Parce que c'est...
Ouais, disons que je parle de ça, parce que moi, je suis touchée personnellement par ça. Mais moi, j'ai l'expression de dire toujours, je suis un peu... Alors, c'est pas très joli comme expression. Je suis le cul entre deux chaises. En fait, je vois, mais je vois pas.
Ouais.
Donc, adapter des choses qui sont complètement pour les non-voyants, c'est pas encore dans mon objectif. Et pourtant, je ne vois pas. Donc, l'entre-deux est pas facile. Je pense que chaque handicap rencontre ses difficultés. Je pense que la malvoyance, on commence à en parler un peu plus. Mmh. On commence à mettre des choses un petit peu en place. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Je dirais que ça fait 2 ans que je me penche un peu plus sur le domaine de la malvoyance ou la cécité complète. Ouais. Parce qu'avant, je m'étais écartée complètement de ça parce que je me sentais écartée aussi par rapport à mon handicap. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Ouais, sur le matériel urbain.
Ouais.
Par exemple, je trouve que c'est pas encore au top, hein, franchement.
Mais c'est vrai qu'en plus, il y a très peu d'informations finalement qui circulent pour les personnes concernées. Parce que, par exemple, sur Caen, le fait que le CCAS de Caen distribue des boîtiers, des balises sonores
pour les traversées,
les traversées de feu, pour justement les bus et les tramways, finalement. En discutant, nous, dans l'association, avec des bénéficiaires de chiens guides ou même des malvoyants ou des non-voyants, on se rend compte que très peu de gens l'ont appris par une structure publique.
Ben, moi, quand j'étais à Sainte-Marie, on s'informait comme ça et on avait tous fait le constat, c'est que, alors, aveugle ou pas, en fait, on était tous dans le même cas, c'est qu'on n'avait pas d'infos. Ouais. Voilà. Mais tout âge confondu, hein. On n'avait pas d'infos. On vous diagnostiquait et point. Maintenant, voilà.
Parce que nous, on a eu le cas d'une personne qui s'est fait prescrire, par exemple, une canne blanche par son médecin, sauf que finalement, c'était une canne de pharmacie. Et la personne n'a pas eu de formation justement en locomotion avec quelle canne prendre, quelle hauteur, quel embout, etc.
Ouais, moi, j'ai eu le même souci. J'ai démarré comme ça aussi. Canne de pharmacie, vous êtes remboursé par la Sécurité sociale, 11 euros. Et puis, voilà. Vous cherchez des éducateurs en locomotion, vous n'en trouvez pas. Vous ne savez pas où les trouver. Moi, quand j'ai rencontré Clément, qui fait partie de l'association à Vue de Truffe, je me suis dit, ah ouais, ça sert à ça. Ah, on peut faire comme ça. Et puis, la taille est importante. C'est super important.
Ouais.
Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que ma meilleure canne, pour moi, c'est une canne avec une boule un peu grosse, avec un ressort au bout, ce qui fait que dès que je tape un obstacle, j'ai pas la poignée de la canne qui me revient dans le bras où c'est hyper douloureux. Non, la canne, elle est amortie. Il y a un balayage bien précis à faire. Il y a un degré de balayage. C'est un monde qui s'est ouvert encore aussi là-dessus. Hein. On a l'impression de tout découvrir. On se dit, c'est beaucoup plus simple, clairement. Et maintenant, j'en ai toujours un exemplaire de canne dans mon sac à main, un exemplaire de canne avec le sac quand je sors Sully, parce que je ne suis jamais à l'abri que Sully se blesse ou ait un souci quelconque. Donc, je sais que je peux me débrouiller encore avec la canne. Je pratique encore un peu la canne, au cas où. Mais maintenant que je l'ai découverte, ce serait comme si je sors dans la rue sans sac à main. Je ne peux pas sortir dans la rue sans ma canne. Il me faut ma canne avec moi. Même si je ne l'utilise pas, il faut qu'elle soit avec moi. C'est un outil, je dirais, indispensable.
Ouais.
Moi, j'ai des personnes qui sont malvoyantes, qui n'ont pas passé le cap de la canne. Et moi, je leur dis, la première chose, mettez-vous en sécurité avec une canne. Ça vous identifie aux yeux des gens, même s'ils ne connaissent pas tout. Mais ça vous identifie, vous ne passerez pas pour quelqu'un d'un peu saoul parce que vous êtes à droite, à gauche, vous ne savez pas trop. Ou si vous prenez un poteau par malheur, on ne va pas dire « Oh là là, mais regarde ça ». Non, il y a une canne. Ça vous identifie quand même et ça vous met en sécurité. Après, c'est une étape un peu psychologique aussi de se dire « Voilà, je suis en effet en situation de handicap, je suis malvoyante ou non-voyante, il me faut une canne pour me déplacer ». Moi, j'ai mis très très longtemps. Oui, j'ai mis plusieurs années à accepter le fait qu'il me fallait une canne. Mais quand à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas être qu'au bras de mon mari ou au bras de quelqu'un, il faut que je prenne mon indépendance et mon autonomie en main aussi, j'étais prête, quoi.
C'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un.
Ah, mais oui. La base, c'est ça, c'est la canne.
Qui voudrait soit une canne, soit justement un chien guide, mais une personne qui a justement traverse une période un petit peu compliquée sur ouais. l'acceptation du handicap et ouais. le fait de vivre avec.
Bah, moi, j'ai fait j'ai 55 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que je me trimballe ce handicap. Et encore plus maintenant, parce que voilà, c'est dégénératif, donc je perds la vue régulièrement. J'ai mis le temps à comprendre. Maintenant, oui. Alors, je ne dis pas que je l'accepte. Je fais avec, parce qu'on n'accepte pas d'avoir un handicap quel qu'il soit. Mais on n'a pas le choix. Il faut continuer, il faut avancer et autant faire le mieux possible. Moi, l'association, je rencontre des gens qui sont formidables, qui font des choses vraiment extraordinaires. Et je me dis, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je vais à mon rythme, mais je fais les choses et c'est une petite victoire sans cesse, quoi. Et j'ai accepté de prendre cette canne. Oui, voilà, j'ai plus honte de dire, excusez-moi, je suis handicapée, enfin, je suis malvoyante, ouais. j'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai plus honte. Je sais que ça... Voilà, on a une parole, on a un cerveau, il faut encore s'en servir. On n'a plus les yeux, mais le reste fonctionne. Et moi, je trouve que ça dégage plein de choses positives autour de moi et ça donne envie de continuer, justement. Mais c'est des étapes. Moi, comme je dis, mon handicap, il évolue au fil des années. Je peux tout à fait concevoir que quelqu'un, suite à une opération, par exemple, perde la vue, le parcours ne va pas être le même. Parce que là, c'est du jour au lendemain. Il faut un temps d'adaptation. Voilà. Il faut un temps d'adaptation, mais il faut aller à son rythme. C'est vrai qu'on est diminué dans certaines actions, mais il y a toujours un plan B. Moi, je fonctionne avec des plans B. Voilà. Je ne peux pas comme ça. Bon, bah, je vais faire autrement. Je vais réfléchir. Et je pose la question. Je me fais aider. Et voilà.
Et ben, en tout cas, c'est très bien de rester sur une note positive pour la fin. Merci beaucoup, hein, Isabelle, d'avoir participé à ce premier épisode.
Ben, merci à toi de m'avoir invité. À bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde.